podcast de partage des connaissances de la DGT. Donc j'ai le grand plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec trois invités qui sont les antennistes, donc les field officers, du département espagnol de la DGT. Alors nous avons avec nous Sara Occhipinti, Luis González, qui sont antennistes à Madrid, et puis Mireia Martínez, qui est antenniste à Barcelone. Donc, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Merci à toi.
Je vous remercie d'autant plus que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Votre pays, l'Espagne, occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. Et en l'honneur de cette présidence, vous organisez des événements pour le grand public sur le multilinguisme, la traduction, et aussi des événements en lien avec la Journée européenne des langues, qui a lieu le 26 septembre, si je ne m'abuse. Alors, on a eu envie à DGT Radio de vous réunir pour que vous nous racontiez un petit peu, que vous nous fassiez découvrir les événements que vous organisez. Sara, je voudrais commencer peut-être par votre initiative phare, qui est une exposition qui est intitulée La traducción, lengua de Europa. Donc, j'imagine en référence à Umberto Eco et à sa fameuse citation « La langue de l'Europe ». C'était la traduction. Et peut-être, petit détail pratique pour démarrer, à partir de quand et où est-ce qu'on pourra voir cette exposition?
Oui, alors tout d'abord, merci Caroline pour nous avoir invités et pour nous offrir cette opportunité pour pouvoir parler de tous nos événements. Et donc voilà, c'est correct, le titre c'est à partir de Umberto Eco qu'on a eu l'idée. Et l'exposition en fait sera inaugurée le 22 septembre à Grenade, dans le bâtiment de l'ancien hôpital royal, qui est aujourd'hui le siège du rectorat de l'Université de Grenade. Et donc, c'est avec la collaboration de l'université qu'on a réussi à organiser l'inauguration. Et l'exposition sera ouverte jusqu'au 27 octobre.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi la ville de Grenade?
En fait, on a fait un brainstorming, comme on dit, en bon français. Alors, et donc, Et donc, la première raison est que l'Université de Grenade fait partie du réseau EMT. Mmh. Et puis aussi parce que peu après, il y a deux réunions importantes qui se tiennent à Grenade, les 5 et les 6 octobre. Les 5, il y a la réunion de la communauté politique européenne. Les 6, il y a la réunion informelle de chef d'État et du gouvernement. Et donc, nous voulions que l'exposition puisse être visitée à l'occasion de ces événements. En ce qui concerne la date aussi, elle devait être proche de la Journée européenne des langues, car cet événement s'agit d'une des activités organisées en Espagne dans le cadre de la Journée européenne des langues.
Et alors, dans cette exposition, vous proposez aux visiteurs de partir en voyage dans l'histoire de la traduction en Europe et en Espagne, en débutant au 5e siècle et puis en remontant jusqu'à nos jours. Et je me demandais, avec qui est-ce que vous avez imaginé cette exposition? Est-ce que vous avez fait appel à des universitaires, des spécialistes?
Oui, c'est ça. En fait, pour raconter un peu l'histoire de l'exposition, c'est déjà en 2021 que notre département d'espagnol et la DGESQIC, en fait, les interprètes, avaient entamé des discussions informelles pour voir s'il y avait la possibilité de promouvoir des activités culturelles sur la traduction et l'interprétation à l'occasion de la présidence espagnole. Et puis, en novembre 2022, le ministère espagnol de la présidence a contacté Luis, mon collègue, pour un échange d'idées sur les activités dans les domaines de la traduction qui pourraient être organisées pendant la présidence. Et donc, c'est là que l'idée d'organiser cette exposition s'est cristallisée. Et maintenant, au printemps 2023, et finalement, on a obtenu le financement de l'activité par la DGCOM ici à Madrid. Et c'est alors que Luis a mis en place le groupe de travail composé d'experts très renommés, je dois dire, du monde universitaire et d'autres institutions. Et donc, le contenu de l'exposition a été développé justement par cette équipe d'experts, sur la coordination de notre département. Et cette équipe d'experts, comme j'ai dit, provient d'universités, des groupes de recherche et des services administratifs espagnols. Et dans la liste, on peut donc trouver la Escuela de Traductores de Toledo, qui fait partie de l'Universidad de Castilla-La Mancha, le groupe Alfaqueque de l'Universidad de Salamanca, l'Université d'Alcalá, l'Universitat Pompeu Fabra, Speculum, qui est un observatoire de l'identité européenne et de la diplomatie culturelle, et puis l'Instituto Cervantes, et puis la Oficina de Interpretación de Lenguas, qui est le service de traduction du ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération. Et puis la DGESQIC, bien sûr, a contribué aussi au contenu relatif à l'interprétation dans les institutions européennes. Et voilà, le groupe était très important, il y avait beaucoup de personnes, mais la coopération a été excellente. Les résultats aussi, à mon avis.
Si j'ai bien compris, l'exposition contient 23 panneaux qui fourmillent d'informations. Alors, on sent que vous avez été très nombreux parce que vraiment, c'est plein d'informations sur chaque époque. C'est vraiment tout à fait passionnant. On apprend plein de choses. Et alors, j'ai été frappée notamment par le premier panneau qui est un peu un panneau introductif et alors qui montre deux figures féminines qui appartiennent à deux époques très éloignées. Il y a d'un côté une Amérindienne qui est aux côtés de conquistadors espagnols et de l'autre, on voit une journaliste allemande sur le front de la guerre civile espagnole, donc en 1936. Et alors je me demandais, qui sont ces deux personnages et pourquoi est-ce que vous les avez choisis pour illustrer l'histoire de la traduction et l'histoire de l'interprétation?
Oui, ces deux images sont vraiment très intéressant. Dans la première, on voit Malinche, qui est d'origine aztèque. En fait, son nom indigène était Malitzin, mais était mal prononcé par les Espagnols et donc à la fin est devenu Malinche. Et après, lors de son baptême, elle a reçu le nom de Marina. Alors, elle a joué un rôle très important dans la conquête du Mexique parce qu'elle était la traductrice des langues maya et aztèques et était la médiatrice entre les Espagnols et les Indiens. Lors de la marche de l'armée des Cortés à travers les terres mayas, en fait, au début, les négociations étaient menées par Jerónimo de Aguilar, qui était le seul interprète dont disposaient les Espagnols. Mais après, ils sont arrivés dans un autre territoire et ils reçoivent la visite des émissaires de l'empereur aztèque Montezuma II, non? Et la langue des émissaires était incompréhensible pour Aguilar. Et c'est alors que Malinche se révèle comme une interprète précieuse parce qu'elle traduit de l'aztèque vers la langue maya afin qu'Aguilar puisse comprendre et à son tour traduire en espagnol pour Cortés.
C'est ça.
Et donc, ce sera ce triple système de traduction qui fonctionne au début de la conquête.
Et avec après, une langue pivot. Avec
voilà, pivot. C'est ça. Et après, Marina apprend à parler l'espagnol et cela simplifie le système de traduction. Mais comme vous dites, c'est très curieux car nous voyons ici que les systèmes de relais et des langues pivots qu'on utilise aujourd'hui presque dans toutes les réunions, étaient déjà en fait utilisés au VIe siècle. Donc, c'est vraiment très spécial. Et de son côté, on a l'autre photo qui est celle de Ilse Wolf, qui était un juif autrichien et journaliste.
J'ai eu des mauvaises informations. Ouais.
Germanophone en tout cas, non?
Oui, voilà, germanophone.
Voilà, et elle travaillait comme interprète pendant la guerre civile espagnole du côté des républicains. Parce que c'est intéressant de rappeler qu'avec des combattants qui étaient originaires de plus de 50 pays, c'était nécessaire pendant la guerre de centaines d'interprètes d'une part et de l'autre, pour pouvoir communiquer à tous les niveaux. Et un bon nombre de ces interprètes étaient des femmes, en fait. Et cette présence féminine dans l'interprétation était quelque chose d'inédit jusqu'à ce moment. Mais aujourd'hui, on le voit, on le sait, les femmes sont majoritaires dans les professions de la traduction et de l'interprétation. Il suffit d'aller dans n'importe quelle école, dans n'importe quel cours universitaire, on peut constater que la majorité des étudiants sont des femmes. Ouais. Et c'est précisément pour cette raison qu'on a choisi l'image des deux femmes pour refléter la réalité du monde d'aujourd'hui. Et par ailleurs, pendant l'histoire, on a déjà très peu parlé des traducteurs et d'interprètes hommes, masculins, et donc encore moins de ceux qui étaient des femmes. Et donc, dans l'exposition, nous avons voulu faire connaître aussi les noms des femmes et leur contribution.
Et alors, j'ai envie de faire un saut dans le temps, parce qu'il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappée dans les panneaux que j'ai vus. C'est une phrase au XVIIIe siècle d'un intellectuel en Espagne qui a dit « Par les temps qui courent, malheureuse est la mère qui n'a pas d'enfant traducteur ». Et un peu plus loin, sur un autre panneau, ça c'est au XIXe siècle, on déplorait qu'en Espagne, il y avait un déluge de traductions. Et alors, je me demandais, je ne sais pas si c'est possible d'expliquer en quelques mots, pourquoi est-ce qu'il y a eu un essor de la traduction en Espagne au XVIIIe siècle, XIXe siècle comme ça. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à traduire comme ça tous azimuts au point que certains trouvaient que c'était trop?
En fait, bon, il y a des raisons politiques parce que la situation politique était marquée par l'instabilité avec la guerre d'indépendance, les guerres carlistes, soulèvements, révolutions et tout. Et puis, aux révolutions politiques se sont ajoutées les révolutions littéraires, et donc la plus importante, celle du romantisme, et puis un peu plus tard, c'est du naturalisme, et dans le cas de la poésie, on trouve le symbolisme. Et alors, il y a tous ces mouvements qui arrivent en Espagne, sont mouvements d'origine européenne, et ils arrivent surtout par la France, ou à travers la France, non? Et alors, ces mouvements entraînent un renouvellement de la littérature espagnole. Et tous ces mouvements, ils sont arrivés et ils se sont répandus, surtout et grâce aux traductions. Et alors, c'est pourquoi ces siècles se caractérisent pour cette surabondance des traductions et par conséquent, une abondance des critiques. Et bon, les critiques, c'est toujours autour des grandes questions liées au débat sur la littéralité, la liberté, la nécessité d'utiliser les vers ou la prose. Bon, les mêmes thèmes d'aujourd'hui, plus ou moins. Voilà. Et la critique était particulièrement dirigée contre les traductions théâtrales, qui étaient presque toutes du français, et étaient considérées, mauvaises. Et bon, on parlait beaucoup de mauvais traducteurs, je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais ces critiques, ce qui souligne, c'est un des aspects plus remarquables de la période, c'est-à-dire on commence la commercialisation de l'activité de la traduction.
Et alors, j'aimerais bien me tourner vers Luis maintenant. Donc, je rappelle que tu es le deuxième antenniste à Madrid. Je sais que tu as imaginé un projet dans des écoles à la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Un projet qui s'appelle Araya. Que veut dire Araya et qu'est-ce que c'est que ce projet?
Oui, merci Caroline, je te remercie aussi de nous avoir invités. En fait, c'est pas moi, c'est un groupe de collègues, aussi des collègues de l'antenne de la collègue Ana Lorenzo de l'antenne de Lisbonne. C'est aussi un vieux projet d'un collègue retraité, Paulo Correia. À nous tous, Sarah aussi, on a travaillé à ces projets. Littéralement, la Araya est une ligne, est une frontière. C'est une raie qui divise l'Espagne et le Portugal, qui a la peculiarité d'être la plus ancienne frontière, une des plus anciennes frontières en Europe, qui est restée pratiquement inchangée depuis le traité d'Alcañices en 1297, avec des petites variations. Il a aussi une peculiarité qui est le fait que la frontière continentale la plus longue entre deux États membres. Donc, on dirait pas. Mais elle fait 1214 kilomètres. Et pour la petite histoire, c'est à cette frontière, la Raya, qui se trouve le plus petit pont international du monde. C'est un pont qui est appelé le pont El Marco, qui sépare les villes de La Codosera en Badajoz et d'Aranche dans la région de l'Alentejo au Portugal. C'est un pont international qui mesure 3,2 mètres. De
un pont international qui relie
deux continents. Et voilà, c'était intéressant comme symbole pour parler un peu de la diversité européenne, utiliser cette diversité linguistique à cheval de deux États membres, dans une frontière qu'on peut considérer une non-frontière. C'est un concept très intéressant qu'on va travailler dans cette rencontre. Et l'idée, c'est une frontière perméable, où les gens, les citoyens qui sont séparés par une frontière politique, ces citoyens partagent d'une manière ou d'une autre des éléments historiques, culturels et économiques communs. De sorte qu'on a créé un adjectif qui s'appelle Rayano, la culture rayana d'Arayo, de la Raya en espagnol, qui délimite un espace culturel, pas seulement un espace géographique, mais aussi culturel, des relations économiques dans cet espace des non-frontières.
Et alors, pourquoi dans des écoles? Donc, vous allez rencontrer, comment dire, rencontrer des enfants? C'est avec eux que vous allez travailler?
Oui, c'est un événement qui s'étend sur toute la journée du 26 septembre, qui est proprement le jour de la journée européenne des langues. Et ça commence justement par une rencontre des écoliers portugais qui vont être reçus à Valverde del Fresno, qui est un village frontalier d'Espagne, qui est un village très, très, très caractéristique parce qu'ils ont sa propre langue, langue d'Araya qui s'appelle la Fala. La Fala est une langue qu'on situe dans le spectre des dialectes des langues galaïco-portugaises, donc du nord-ouest d'Espagne, mais qui a aussi de l'influence de lyonnais, donc de la langue de l'ancien royaume de Lyon, qui est linguistiquement très intéressante et que les gens de Valverde, des deux villages environnants, maintiennent et préservent et utilisent. C'est une langue, évidemment, comme toutes les langues de frontières, qui est proche des langues de l'autre côté de la frontière. Donc, il y a aussi des éléments qui sont compréhensibles pour nos voisins portugais. Et ça permet aussi, on a misé sur l'idée d'intercompréhension. On va voir si on arrive à faire un événement multilingue sans utiliser d'interprétation. Je crois qu'avec les écoliers de la région, c'est clair, parce qu'en plus de parler sa langue locale, la Fala, ils parlent aussi le portugais, et ils comprennent le portugais. Et du côté portugais, de la localité du village voisin de Penamacor, ils parlent tous espagnol, ils comprennent espagnol. Donc, il aura moyen de pas seulement de se comprendre, mais même de se comprendre en plusieurs langues, en utilisant plusieurs langues. Et voilà, comme symbole, c'est très ludique, très festif. L'idée, c'est de donner le protagonisme aux élèves, aux écoliers, les profs.
Bon, merci beaucoup, Luis, pour cette explication. Maybe I will turn to Mireia now. Mireia Martinez, who's a field officer in Barcelona. So, Mireia, you will be organizing something in Barcelona, which is a language fair. So, where exactly will the language fair take place?
Well, it will be. Well, thank you. As my colleague said, thanks for having us, Carolyn. It's great to be able to explain a little bit what we do in our field offices, because it feels a bit far away from Brussels and Luxembourg sometimes. So it's nice to be able to share with everyone. The language fair that we will be holding next week, it will actually take place in the Goethe Institute headquarters here in Barcelona, because we are teaming up with UNIC. And actually, I'm very excited because it's the first time that we're doing that. I mean, no mystery behind this. It's just that there was no UNIC cluster in Barcelona until a couple of years ago.
Okay, you have to remind us what is UNIC.
Yes, I was actually going to do that, because probably a lot of people haven't heard of them before. UNIC stands for European Union National Institutes for Culture. So basically, it's the network of organizations engage in cultural relations from all the member states. And there you have like the Institut Français, Instituto Cervantes, of course, Instituto Italiano di Cultura, Goethe Institute, Camões, and you know, all the equivalent institutes in each country. So they basically get together in different cities and create a cluster. And with these clusters, they organize activities. And many of us, many field officers, many DGT field officers collaborate with them every year for the European Day of Languages. Basically, when I heard that they had set up the UNIC Barcelona, I approached them and suggested that we collaborate on the occasion of the European Day of Languages. And that's what we made up. We put together a great team with Institut Français, Instituto Italiano di Cultura, and Goethe Institute. These are the three members here in Barcelona. And we've come up with an evening of activities. It's a language fair made up of a conference on European history that will be held in French. There's going to be a storytelling session in German, a live concert of Italian songs, a street art workshop that will be in Spanish. So, you know, we're making sure that it's very multilingual as well. And the underlying theme is traveling words. So basically those words that go beyond their original language and end up being used in different language communities. I don't know, that, like the Spanish word siesta is a clear and obvious example, but there's millions, like diva or pizza from Italian, or actually Catalan, my mother tongue has given a few also, like paella is a Catalan word, alioli as well, so that sort of thing, caput, bureau, you get the idea. So we're basically using that as an excuse to create activities around it. For example, the street art workshop, it's targeted at 12 to 15 year olds, so for young people. And what they'll do, they'll pick one of these words and use it to learn some graffiti techniques with the artist, Zach Orio, who is doing the workshop. And and then they will create a little work of art with these traveling words as an excuse. Mm-hmm. And then, of course, we'll finish it up with some food, because this is the Mediterranean, after all. There's no food, there's no party, no celebration. We've managed to find a provider who'll be preparing some specialties from the different countries, which is also very nice. And at the same time as the food, there will be the music concert offered by Vanessa Grillone, who's an Italian singer based in Barcelona. And she will be performing like some great hits, contemporary Italian hits like Parole Parole, Il Mondo, like Carosone, Mambo Italiano, or Carrà, Rumore, that sort of thing. So I think it's going to be great fun. And then she'll also be including some songs in Catalan, in Spanish, in French, maybe even in German. So again, with that multilingualism theme there.
So there'll be many languages and many artistic fields as well. So there'll be music, street art. Did you mention a photo exhibition?
There is a photo exhibition as well by a Catalan artist, a photographer called Jordi Nin. And the exhibition is called Pell Mutan, Mutant Skin. And basically what he does is he's taken pictures of the messages that are written on the walls of our towns and cities. So so there's a lot of cultural expressions. There'll be some arts and crafts as well, again with the word traveling words theme.
Okay, thank you very much for this. Il me reste à vous remercier, hein, Sarah Occhipinti, Luis González et Mireia Martinez. Merci beaucoup de m'avoir consacré un petit peu de temps. Et puis merci pour ce panorama de vos nombreuses activités. Et puis bonne chance pour la suite.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à toi.
Merci. À bientôt. Thank you.